3,5.
En République démocratique du Congo, le secteur de l'enseignement est confronté à plusieurs problèmes. Pas d'infrastructure viable et matériel didactique adéquat. Autre chose, les relations entre les élèves et le personnel enseignant sont parfois émaillées de faits tels que corruption, harcèlement sexuel, manque de rigueur disciplinaire. En ce lundi 16 juin 2008, journée de l'enfant africain, quel regard les enfants portent-ils sur leurs droits, sur leurs conditions, allais-je dire, d'études? Nous allons parler avec Berry, c'est Franklin Luchaka. Berry, vous êtes penché sur la question. Oui. Bonjour Berry.
Bonjour Gilles.
Alors, vous êtes allé à la rencontre des enfants scolarisés, qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
D'une manière générale, les élèves étudient dans des conditions presque inhumaines, surtout au niveau primaire dans les écoles publiques. En partant des infrastructures à la discipline, en passant par la pédagogie proprement dit, la situation est tellement catastrophique. À peine vous pouvez vous rendre compte que l'on peut estimer à 2% d'écoles publiques où la peinture est refaite chaque début de l'année, par exemple. Bref, la situation qui met mal à l'aise l'enseignant au niveau de l'école primaire.
Alors, vous avez parlé de plusieurs choses à la fois, mais commençons un peu par les infrastructures. Est-ce que les élèves étudient dans les bonnes conditions?
Généralement, les élèves n'étudient pas dans les bonnes conditions. J'ai pas de bonbons, pas de des vitres cassées, des toilettes sales. Bref, il y a un manque d'entretien de la part des autorités scolaires. Suivons l'exemple, par exemple, ces témoignages.
Nos bâtiments ne sont pas vraiment propres, mais quand même, c'est bien pour les infrastructures, comme par exemple pour les toilettes, qui ne sont pas tellement en bon état. Mais sinon, l'état des classes, ça va. Nous avons beaucoup de bancs là-bas. Les bancs là, ça va.
Il y a plusieurs difficultés que nous rencontrons à l'école. On n'a pas, les bancs sont vraiment archaïques, les tableaux, la salle indisponible pour étudier, très sale, les fenêtres cassées.
Non, la condition est vraiment très mauvaise, je dirais. Ouais. Les salles de classe, d'abord, on a des bancs qui ne sont pas vraiment très bien arrangés pour se mettre, les tableaux qui sont en mal état, les salles de classe qui ne sont pas assez propres, des choses comme ça.
Voilà, c'est ça l'image, les tableaux que représentent aujourd'hui les infrastructures des écoles publiques. Parlons de la discipline alors, Berry, est-ce qu'elle est des rigueurs?
Là encore, hier, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, mais dans l'ensemble, les élèves rencontrés nous ont parlé de laisser aller tout simplement parce qu'il y a changement de directeur. Encore une fois, suivant cette explication.
La discipline est là, mais pas vraiment rigueur. Quand on vit, il faut aller à l'école 7h30. Il y a des saisons qui arrivent à 8h, mais la porte est toujours ouverte.
À l'école ici, là où moi je suis, c'est pas vraiment en rigueur.
L'habillement, par exemple. L'élève avant devait mettre sa cravate à la maison, et maintenant là, il s'amène jusqu'à l'école 7h45, comme il veut. Il fait sortir la cravate dans son sac, il enfile devant l'école. Donc, en quelque sorte, il s'habille devant l'école, quoi.
Il y a un laisser-aller. Par rapport à la tenue, on contrôle plus comme auparavant. Les élèves viennent comme ils veulent, le tresse, on ne contrôle plus. En classe, il y a les élèves qui manquent de respect aux agents de la discipline, même aux profs.
On a un directeur de discipline qui ne sait d'abord pas bien parler français. Disons, la discipline, elle n'est pas vraiment bonne. Parfois, des élèves peuvent venir à 8h30 et on a écrit sur le règlement de l'intérieur au plus 7h45, on a fermé la porte.
Voilà, il y a beaucoup à dire autour de cette question.
Mais
si la discipline n'est pas de rigueur, que dira-t-on de l'enseignement?
Ah, là, hier, c'est encore un autre problème. Disons d'une manière générale que l'enseignement se donne relativement bien, si bien qu'il y a des rires. Selon nos interlocuteurs, certains enseignants arrivent à quitter l'école parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs, mieux que l'enseignement, disons. Mais s'il y a quand même des rapages dans le métier par rapport à la corruption, tout cela à cause des conditions de vie que mènent les enseignants. Sous ce chapitre, voulais-je dire, suivant ces explications.
Dans notre école, je n'ai jamais entendu ça, mais dans d'autres écoles, ça suffit. Dans notre école, je n'ai jamais entendu une élève corrompre les professeurs.
Ouais, on corrompt les professeurs. Vous savez, quand quelqu'un ne les paye pas bien, quand il voit l'argent, il va directement ses données, il va directement prendre parce qu'il sait qu'on ne les paye pas bien. C'est ça qui arrive dans mon école, on ne paye pas bien les professeurs. Quand on va lui proposer un petit 10$, 20$, il va directement accepter, il va pas refuser. Directement, tu vas voir ça sur place, tu le donnes directement, il écrit. Ce que tu vas demander, il va directement mettre, c'est ça.
C'est courant, donc presque dans toutes les écoles, nous voyons ça, nous constatons que ça les élèves souvent qui n'arrivent pas à bien travailler. qui donnent un petit rien aux profs pour pouvoir penser à eux, à la délibération, à quelque chose de comme ça.
Voilà, il y a beaucoup à dire et vous êtes à la maison, vous le suivez, vous avez peut-être une petite contribution autour de cette réflexion, n'hésitez pas à s'appeler au 081 070 20 50 parce que dans quelques instants, nous aurons comme invité Monsieur Arthur Cédéangamo, vice-ministre de l'EPSP et nous avons dans ce studio d'ailleurs les enfants, les élèves. Aujourd'hui, on voulait quand même faire une exception parce que chaque 16 juin, nous parlons beaucoup plus des enfants en rupture familiale. Moi, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le problème que les élèves connaissent au niveau de leur scolarisation. Alors, Béry, on va poursuivre avec vous. Nous entendons que les élèves filles se font harceler par leurs enseignants. Avez-vous rencontré quelqu'un comme ça dans votre balade?
Bien sûr, hier. Je préfère que nous puissions commenter après ce témoignage.
Je n'aimais vraiment pas aller dans l'homme des profs. Bon, je suis avec deux garçons de ma classe et une amie. Et on est monté et arrivé là-bas. Le prof nous accueille tout gentiment, ce mec. Il demande à mes collègues, les deux garçons, il pose au premier, est-ce que j'ai un problème avec toi? Tu peux disposer. Il demande aussi à l'autre. Et les deux sont partis. Moi, j'ai dit, mais comment est-ce que vous voulez laisser partir? Il a dit non, il faut le laisser partir. On est resté avec ma copine. En simple curiosité, je lui ai posé la question, pourquoi vous fumez? Bon, il m'a dit qu'il fumait parce qu'il a eu un choc. Et qu'il a poussé à fumer pour oublier sa vie. Il m'a dit, oh, comment j'ai trouvé? Et je crois que vraiment, ça ira. Il a parlé de mon école. Ma fille était élève dans mon école. À cette époque-là, j'étais en troisième. Moi, je dis, bon, monsieur, elle est dans mon école. Je parie qu'elle est en 5e, 6e. Il me dirait, et pourquoi pas toi? Si je te disais que c'est toi, vraiment, c'est toi que j'ai choisi, plein de blablabla. Je me disais qu'il me plaisantait parce qu'il était vraiment sérieux. Et je me suis levée, et je voulais sortir de la chambre. Il n'a pas voulu me laisser sortir. Je lui ai dit que je devais sortir. Si je ne sors pas ici, je risquais de le crier. Et ma copine, tout ça, elle ne comprenait vraiment rien. Elle me dira, Béatrice, pourquoi t'agis comme ça? Plein de blablabla. Moi, je lui ai dit, qu'on sorte de cette chambre. J'ai plus confiance au professeur. Et on est sorti. Depuis ce jour-là, quand je le voyais, je ne le saluais pas.
Un comportement insuffisant. Donc, à 15 ans, l'enfant est encore mineur. Hein? Moi, j'ai 18 ans, on est mineur. Et je crois qu'une telle violence mérite également des sanctions.
Merci.
Alors, Berry, nous avons en ligne d'ailleurs le vice-ministre de l'enseignement qui va apporter quelques éclairages autour de cette question. Mais on va tout de même terminer avec vous. Nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. Hein? Nous allons donc donner, comme je l'ai dit, la parole à nos invités. Mais est-ce que vous avez un élément particulier à ajouter?
Bon, l'élément particulier, c'est que vous l'aviez remarqué que au niveau de la corruption, c'est les élèves qui ne sont pas tellement intelligents qui sous-doient les enseignants. Et même les filles, il y a aussi des filles qui acceptent de sortir avec les professeurs. C'est pas comme cette fille qui a un peu du caractère. Il y a des filles qui acceptent de sortir avec des professeurs.
Facilement.
Pas facilement, bien sûr, juste pour le besoin de points. Et d'autres qui nous ont dit hors micro que c'est parce que il met des conditions
économiques.
Voilà.
Il y a beaucoup de choses à mettre en ligne des comptes. Mais voilà, on va accorder la parole à nos invités. Berry, avec vous, on s'arrête là. Merci, à la prochaine.
Merci.
Arthur Cédéangamo, vous êtes vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Vous êtes en ligne et bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, vous avez suivi les réactions de quelques élèves. Nous pensons que vous allez apporter quelques éclairages autour de cette question. Nous avons d'abord dans ce studio les élèves que nous aimerons que vous puissiez d'abord suivre et avant que vous puissiez réagir. Restez en ligne, son excellence, monsieur le ministre. Nous avons dans ce studio des élèves qui nous ont envahis pour en parler. Aujourd'hui, nous avons voulu faire exceptionnellement cette émission autour de l'enfant scolarisé et non mettre l'accent, comme ça a toujours été le cas le chaque 16 juin, sur les enfants en rupture familiale. Nous avons dans ce studio Trézy, Déo et Rosie. Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors Trézy, on a parlé de beaucoup de choses hein, avec Berry. On a parlé des infrastructures, de la discipline, ainsi que de l'harcèlement et de la corruption. Alors j'aimerais bien que nous abordions d'abord le problème des infrastructures. Est-ce que vous trouvez qu'en ce moment, les écoles publiques donnent un bon visage?
Dans toutes les écoles. Mais la majorité de cas est que dans plusieurs écoles, l'école n'est pas bien soignée, les bancs, les tableaux, on voit même des élèves qui se sortent par terre pour étudier, et ce qui n'est pas bien, parce qu'avec tout ça, l'élève encore aura de complications après. l'enfant qui vient à l'école pour étudier, qu'il s'assoit par terre et il y a son cahier, soit qu'il s'écouche pour écrire, peut-être qu'il n'y a pas de tableau, les professeurs font la dictée. Et puis tout ça, ça pose de problèmes. Peut-être que les professeurs sont fatigués, ils parlent comme ils veulent et ils ne tiennent pas compte des difficultés qu'ont des enfants pour écrire ou encore pour s'asseoir.
Oui, à cela il faut ajouter aussi que dans certaines écoles où il n'y a pas de banc, il y a des élèves qui vont aller chercher des chaises plastiques. Il y a les professeurs qui envoient les élèves d'aller chercher les chaises plastiques pour écrire là-dessus. Il n'y a même pas les supports. Vous comprenez? Comment est-ce qu'un enfant comme ça peut avoir une belle écriture? Comment est-ce que cet enfant peut bien écrire, apprendre à bien écrire? Vous comprenez? C'est un peu ces problèmes-là. Alors, revenez.
Par rapport à ce que les autres ont dit, j'aimerais ajouter ceci. Lorsque l'enfant étudie déjà dans des mauvaises conditions, cet enfant prend note déjà accroupi par exemple. D'abord, cet enfant a mal, il doit s'occuper de son dos. Et pensez-vous qu'il va bien suivre les leçons que le professeur donne? Non. À part ça, pour l'infrastructure, il y a aussi, comment je peux dire, l'opportunité ou les matériaux que l'école met en jeu pour pouvoir bien enseigner ces enfants-là. Pour la gymnastique, par exemple, il n'y en a pas. Comment est-ce que les enfants font ces histoires-là? Puisque la formation ou l'éducation, c'est tout. C'est le physique, le moral, l'intellectuel, donc presque tout, et même le spirituel. Donc tout cela, si nous remarquons, nous faisons vraiment les statistiques en RDC, cela n'est pas vraiment bien, c'est déployable.
Est-ce que c'est une situation qui concerne que les écoles publiques ou les privées aussi sont dans les yeux?
Bien sûr que oui, les privés aussi, mais vous voyez, le problème avec les privés, c'est quoi? C'est que la personne qui a, comment je peux dire, qui a créé son école, va tenir compte de ses capacités à elle-même. Il y a de ses parents qui peuvent dire, non, monsieur le promoteur, nous voyons que ceci, cela, avec ses propres ressources, il peut tout faire pour mettre en jeu cela. Mais nous remarquons aussi qu'il n'y a pas assez de différence. Même les écoles privées aussi tiennent compte de l'argent.
Il y a même les sols.
Oui, il y a même les sols. Ils veulent l'argent, mais pas l'éducation.
Alors, nous avons Arthur Cédéa Gamo, vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Monsieur le ministre, rebonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez suivi les élèves qui ont parlé de ce premier aspect sur l'infrastructure. Les infrastructures, on peut le reconnaître aujourd'hui, les infrastructures au niveau des écoles publiques, ces infrastructures sont déficitaires. On n'a pas de bonnes infrastructures et pas un accueil agréable qui pourrait peut-être donner un enseignement de qualité aux élèves. Est-ce que vous êtes conscient de cette situation?
Merci beaucoup pour la radio Café qui nous donne l'occasion d'échanger une fois de plus avec nos élèves. Et puisque c'est la journée, avant de répondre à leurs préoccupations, je voudrais saluer tous les enfants de la RDC, en commençant à Kinshasa, dans toute cette province et particulièrement à Karawa là-bas. Répondre à leurs préoccupations, c'est vrai. Nous sommes conscients de ce qui se passe, c'est-à-dire en ce qui concerne les fragilités. Les choses sont telles que nous ne pouvons pas nous féliciter, mais du moins, nous ne sommes pas indifférents par rapport à ça. Il y a des actions qui sont menées pour améliorer leurs conditions de travail, surtout dans les jours à venir. Vous savez que notre pays sort d'une situation un peu particulière, une longue transition, jonchée des guerres. Et maintenant, on essaie de travailler pour remédier à cet état de choses.
Excellent, monsieur le ministre, permettez que nous puissions marquer une petite pause, parce que là, nous devons rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à cette émission en composant le 081-070-2050. Et ceux-là qui nous suivent sur les net peuvent le faire à action@radiocapi.net. 16 juin 2008, journée internationale de l'enfant africain. On va passer à l'information et on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien, monsieur le ministre. Il est 10h à Kinshasa, 11h dans toute la partie est de la République. La chef au Belinda Boussouma.
Les activités tournent au ralenti depuis ce matin à Uvira au sud Kivu. La société civile de la place a invité la population à observer une journée ville morte au motif que leur territoire n'est pas représenté au sein de l'actuel gouvernement provincial publié à Bukavu la semaine dernière. Selon certaines sources sur place, toutes les rues sont restées désertes. Marchés, magasins et boutiques sont restés fermés et les manifestations prévues à l'occasion de la journée internationale de l'enfant africain ont été suspendues. Seuls les hôpitaux et les centres de santé société fonctionne, précise les mêmes sources. Parlant de cette journée de l'enfant africain, sachez qu'au Kasaï oriental, environ 11 000 enfants se livrent au travail des mines de diamants autour de Mbujimayi. C'est ce qui ressort d'un rapport publié récemment par l'UNICEF. D'autres, par contre, vivent dans les rues et marchés de la ville dans des conditions déplorables. Retour au Sud Kivu, l'intensification agricole et les échanges commerciaux dans la région des Grands Lacs sont au centre d'un atelier qu'organise dès ce lundi à Bukavu le Centre international pour la fertilité des sols et le développement agricole IFDC en sigle. Selon les organisateurs, cela vise à contribuer à la paix et à la création des conditions qui permettent de stopper la dégradation de l'environnement et le processus d'appauvrissement de la biodiversité. À cette même occasion, les acteurs potentiels de ce centre feront la restitution des acquis du voyage qu'ils ont effectué récemment au Ghana et au Togo. Le patron de la chaîne de télévision Molière TV interdit le passage dans tous les médias pendant une période de 3 mois. Décision de la Haute Autorité des médias annoncée le week-end dernier au cours de sa réunion hebdomadaire. Il lui est reproché le dérapage verbal envers les autorités du pays. Pour le président de la HAM, Primo Mukambilwa, Léon Mbalemba est frappé d'embargo non pas comme propriétaire des médias, mais plutôt comme acteur sociopolitique. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.
L'actualité se poursuit sur les ondes des radios Okapi tout à l'heure à 11h, heure de Kinshasa, lorsqu'il sera 12h à Butembo. Nous retrouvons à nouveau Arthur Cédéa Ngamo, vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Excellence, monsieur le ministre, vous êtes encore en ligne.
Oui, Charles.
Alors, vous parlez de la situation du pays, notre contexte. Nous sortons de plusieurs guerres. Aujourd'hui, c'est ce qui nous a amené à la destruction d'ailleurs de certaines infrastructures scolaires.
Oui, c'est ce que je disais tantôt. Et donc, pour vous dire que le gouvernement est en train de travailler pour remédier à cet état des choses. Nous sommes conscients, parce que moi et le ministre, de temps en temps, nous sommes sur le terrain pour encourager nos élèves ainsi que nos enseignants. Et croyez-moi, c'est une situation que nous vivons du jour au jour et nous travaillons dans le sens de l'amélioration des conditions de travail de nos enfants.
Voilà, aujourd'hui, c'était prévu dans les cadres de 5 chantiers que les ministères de l'EPSP puissent s'engager à la construction de plusieurs écoles à travers le pays. Qu'en est-il au juste?
Oui, effectivement, vous savez que nous sommes en train de travailler avec des ressources propres et au niveau du ministère. Nous sommes conscients, dans les tout prochains jours, quelques écoles seront réhabilitées. Quand nous disons quelques écoles, parce que nous ne serons pas à mesure de réhabiliter toutes les écoles du pays au même moment.
C'est une question de temps, c'est bien de le préciser, monsieur le ministre. Nous rappelons que vous êtes vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Arthur Cédéa Ngamo. Merci d'être des nôtres, parce que les élèves vous suivent en ce moment partout au Congo. Nous avons des enfants qui ont relevé certains problèmes. Avec eux, d'ailleurs, ils ont reconnu qu'il y avait aussi ce problème de corruption et de discipline. Vous les avez suivis. Et je crois qu'il est bon quand même de leur donner une fois de plus la parole. Et là, je m'adresse directement à Tchéti. Monsieur le ministre, restez en ligne. Alors Tchéti, je voulais savoir, tout à l'heure, on a suivi des enfants qui ont dit qu'il y avait des problèmes de corruption, des problèmes de discipline. Est-ce qu'à votre niveau, vous êtes également confronté au même problème?
Oui, bon, ces problèmes-là, il y en manque pas. Peut-être qu'il n'y en a pas tellement, mais il y a quand même des cas rares. Peut-être que chez moi, à l'école, il n'y en a pas trop, mais ailleurs, on remarque que c'est vraiment un grave problème, peut-être la corruption. Un professeur qui n'est peut-être pas bien payé, il va s'occuper, par exemple, de son ventre, au lieu de s'occuper de l'éducation au cours de l'instruction qu'il donne aux enfants. Et lorsque moi, malgré que j'ai pas bien travaillé, je l'emmène avec un 10 ou 50 dollars pour lui donner, directement, il va prendre ça. Pourquoi? Parce que il a un ventre vide, et on dit, un ventre affamé, il n'a point d'oreille. Mmh. Et il va pas s'occuper du travail qui lui, il est en train de faire encore pour l'avenir du pays. Mmh. Il a plutôt de son ventre parce qu'il a faim, il veut nourrir son ventre et toute sa famille.
Dans bien des cas, Dieu gracias, bon nombre de professeurs viennent au problème Mboudi, j'imagine. Mmh.
Oui, c'est tout à fait normal. Je voulais juste souligner un point. Mmh. Nous avons des collègues, des amis qui font ces pratiques-là, qui pratiquent la corruption, vous comprenez? Et qui dit, non, pour on a autant à tête, je n'étudie pas. Pourquoi? Parce que, non, occupé ça, le professeur dit $10, à autant à bas point, vous comprenez? Et cela provoque un peu un esprit de paresse dans les élèves qui n'aiment plus étudier parce qu'il sait que le professeur est là, il va donner de l'argent et il aura 2 points.
C'est ça.
Ça s'est passé.
Rosie, j'imagine que chez vous, il y a aussi des problèmes. Peut-être qu'il n'y a pas, mais bon, dans l'ensemble, nous savons que la majorité des professeurs se plaignent d'être sous-payés. Ils ont même dit que tant qu'il n'y aura pas un body ne sera pas respecté. À quoi bon enseigner avec beaucoup de force, n'est-ce pas?
Oui, c'est vraiment ça, surtout ce que nous remarquons peut-être dans d'autres écoles. Peut-être que dans mon école, c'est pas vraiment fréquent, mais dans d'autres écoles, c'est le cas, nous voyons cela. Et moi, je dis par rapport à ça que ces professeurs sont des personnes. Ce sont des parents, ils ont des préoccupations, ils ont des engagements. Et une personne qui se donne de la peine pour venir enseigner et qui n'a rien, vous comprenez que nous sommes des humains. Parfois, l'homme est faillible et nous cédons comme ça, nous commettons des péchés malgré nous. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils se disent par exemple, non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et des intellectuels qui comprennent mal des adages, par exemple, vous voyez, ils appellent ça le mal nécessaire. Donc, ce n'est pas bon, mais je suis obligé de le faire pour survivre. Je ne veux pas aller voler puisque tout ce que je connais, c'est l'enseignement.
Il y a aussi un aspect, c'est cette corruption déguisée. Des professeurs qui sont des répétiteurs à la maison et qui accordent comme ça des notes avec complaisance.
Par rapport à ça, je dirais ceci. Moi, par exemple, il se peut que je ne sois pas forte à un cours, mais mon père me le répète, il le dit, jamais je ne pourrai le faire. Pourquoi? Parce qu'il a une conscience. La conscience vous dit que non, ma fille doit étudier. Le répétiteur vous dit très bien répétiteur. Celui qui répète les leçons qui n'ont pas été comprises à l'école. Et donc, son travail, c'est cela. Dites aux parents de bien payer le répétiteur et vous verrez que tout ira bien. Puisque moi, je l'ai fait et je suis là, j'ai bien compris mon cours et il n'y a rien de...
Et le répétiteur, c'est le même qui vous enseigne à l'école. En conséquence, vous ne pouvez pas échouer à son cours. C'est logique. Il est moralement corrompu.
Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai un répétiteur en chimie et j'ai échoué. Donc, je dois aller faire mon examen de répétage. Et vous comprenez par là qu'il n'y en a pas. Ça dépend de ma compréhension à moi.
Lui, ça dépend aussi de morale de ses professeurs.
Voilà, aussi, oui, tout compte, puisque lui, papa l'a payé comme il se devait. Il a payé le montant comme il se devait, donc c'était OK. Et il se dit, alors à quoi bon, pourquoi est-ce que je dois...
Monsieur le ministre, là-bas est dans votre camp, aujourd'hui, la corruption, c'est vraiment un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire, hein, monsieur le ministre. Comment lutter contre ça? Est-ce que c'est possible?
En fait, madame, je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que la corruption, c'est un mal nécessaire. La loi interdit la corruption. Vous savez, nous sommes en train de tout faire pour refonder notre système éducatif. Et partout, nous passons avec le ministre, nous essayons de répéter que ce n'est pas l'affaire du seul gouvernement. C'est-à-dire, les parents sont concernés, les élèves sont également concernés. Si un élève détecte qu'un professeur est en train de favoriser la corruption et qu'il ne dénonce pas, comment voulez-vous que les autorités sachent que tel ou tel autre professeur est en train de vendre le coin? C'est pourquoi nous demandons à tout moment, et d'ailleurs la plupart des élèves du pays ont nos numéros de téléphone pour nous contacter directement.
Alors, je vois la réaction des enfants dans ce studio. Monsieur le ministre, est-ce que vous serez prête à dénoncer un gros professeur qui jamais est accusé de corruption?
Bien sûr. C'est-à-dire quoi? C'est question de conscience.
Oui.
C'est question de conscience et de bon sens. Aujourd'hui, je remarque que mon professeur est en train de favoriser la corruption et que je ne suis pas d'accord.
Oui.
Je dénonce.
Si
on a peur de ces professeurs-là,
voit
le préfet des études. Si on a peur du préfet des études, nous recevons des courriers de partout, même les élèves nous écrivent.
On aimerait que les enfants s'expriment.
Monsieur le ministre, s'il vous plaît, mettez-vous à notre place.
Oui.
Non, vous d'abord, vous êtes parents, n'est-ce pas?
Oui.
Vous n'avez pas d'argent et vous devez aller faire un travail. Oui. Moi, j'appelle ça mal nécessaire. C'est, le mot est bien choisi, c'est le mal nécessaire. On est obligé. Sans ça, dites-moi un peu. À ce que je vous appelle, je dis, monsieur le ministre, son excellence, je ne sais pas. Je dis que non, par exemple, mon professeur, lui, il corrompt, voilà, il est corrompu. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire pour ce professeur-là? Est-ce que vous allez bien le payer? Puisque faut d'abord savoir comment est-ce qu'il est arrivé à être corrompu. C'est parce que il n'y a pas assez de moyens pour lui payer son salaire comme il se doit.
Donc, pour compléter, pour éclaircir un peu la question, donc, il ne faut pas s'attaquer aux conséquences, mais il faut plutôt s'intéresser aux causes.
Oui.
Qu'est-ce qui en fait qu'aujourd'hui, ces professeurs arrivent là?
Tant mieux prévenir que guérir, voilà, c'est ça.
Oui, en fait, je suis d'accord avec vous, mais je suis encore d'accord avec ma fille qui vient de parler là, lorsqu'elle disait tout à l'heure que certains professeurs, et vous n'allez pas me dire que certains professeurs qui ne favorisent pas la corruption ne sont pas payés au même titre que les autres. C'est une question de conscience.
Nous connaissons tous la situation dans laquelle nous vivons. Nous connaissons les efforts que le gouvernement est en train de faire pour remédier à cet état des choses, c'est-à-dire bien rémunérer nos enseignants. Et dans l'entretemps, nous devons les encadrer autrement. C'est question de conscience. Ma fille, si sur 10 professeurs, vous avez 2 qui favorisent la corruption, il y a lieu de les dénoncer. Et les mauvais produits n'ont pas de place à les tester. Une fois dénoncés, et je profite de l'occasion pour saluer le courage d'une fille de Kitambo, qui avait dénoncé un pareil cas, et on avait trouvé solution par rapport à cet enseignant-là. Et l'élève n'a jamais été inquiété jusqu'au
bout. Voilà, excellent, monsieur le ministre.
Nous demandons la participation et les parents et des élèves pour nous aider à faire correctement notre travail.
Alors, on va évoluer parce qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui auxquels sont confrontés nos élèves dans les écoles, notamment en tant qu'on venait de parler d'ailleurs de la corruption, de la discipline et puis des infrastructures. Mais il y a un autre aspect, j'aimerais bien que les élèves puissent en parler avant que nous donnions la parole à Lisadel. C'est autour des harcèlements sexuels aujourd'hui. Ce n'est pas un secret. Tout le monde sait qu'il y a une loi qui a été votée au Parlement et promulguée par le chef de l'État autour des lois sur les violences sexuelles. Mais nous savons aussi, et parallèlement à cela, que les écoles sont aussi confrontées à ce genre de problèmes. Tracy, est-ce que vous avez déjà eu à avoir quelques informations autour de cette question sur les harcèlements sexuels?
Bien sûr, il n'en manque pas. Et puis, ça devient quelque chose de normal ici. Parce qu'en tout cas, ce n'est pas normal qu'un professeur, parce qu'il est mal payé, peut-être que lui, on prend ça pour une sorte de vengeance. Parce que je ne suis pas bien payée, je veux me venger avec votre fille, par exemple. Et dans d'autres cas, on remarque aussi que la fille, malgré qu'elle a bien travaillé, mais on ne sait pas qu'est-ce que le professeur cherche. Il dit, si tu ne passes pas avec moi, tu ne passeras pas des classes ou encore, je ferai tout pour que tu puisses quitter l'école. Et la fille, peut-être qu'elle peut dénoncer. Mais
donc, ce sont des cas réels?
Oui, ce sont des cas réels. Oui. Peut-être que la fille...
Tu en connais quelques exemples?
Oui, j'en connais. Bon, je peux continuer et puis après donner l'exemple. Oui. Et c'est comme on dit, le poisson pourri par la tête. Lorsque moi, j'ai bel et bien envie, ou encore j'ai une conscience, je sais réfléchir, je vais aller dénoncer. Mais lorsque ce professeur-là, il parle bien avec le promoteur, il est bien avec les directeurs, lorsque moi j'irai, on me traitera de quoi?
Il y a toujours occasion de camoufler. Mais alors, je vais donner des exemples, un petit peu.
Bon, à ce que je sache, je connais, il y a eu des filles. Il y a eu des filles, elles n'étaient pas, elles ne vivaient pas vraiment dans des bonnes conditions. Et après, elle travaillait bien, comme tout le monde, elle travaillait bien, mais il arrivait un jour que le professeur l'avait demandé de sortir avec la fille. La fille, elle avait refusé, mais il y a le professeur qui dit, au cas où tu réussis, tu passeras pas de classe. Et quand elle eut des conditions qu'elle vivait en famille, elle ne pouvait pas refuser, elle était contrainte d'accepter. Parce que si elle refusait, elle allait reprendre l'année. Puis, son papa aurait du mal à chercher l'argent. Donc, elle a accepté de passer avec les professeurs. Et puis après, il y a eu la fille qui est devenue grosse. Et ensuite, ça a bouleversé tout dans la famille. Et les parents n'avaient plus de
moyens.
On était obligé de la chasser.
Et on savait que c'était le professeur.
Bon, à
qui était la base de sa grossesse.
Bon, je ne sais pas vraiment si on savait que c'était les professeurs. Mais à ce que je sache, il y a eu la fille qui n'étudiait plus parce que toute sa vie était ruinée. Et le papa, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire pour envoyer encore une fois de plus l'enfant à l'école. Et jusqu'à présent, elle ne fait rien, elle va au marché.
Il n'a pas porté plainte à l'école.
Comment on peut dire, c'est la voix de son voix, en fait. Le parent, il ne va pas, qu'il n'a pas d'argent. Comment est-ce que je vais porter plainte puisque déjà, on ne le fait pas?
Ben, ce n'est pas les cas chez toi, Déo, parce que vous êtes un garçon, hein.
Non, c'est les cas parce que moi-même, j'ai des sœurs qui ont été victimes de cette pratique. À Chikapa, il y a un professeur dans une école qui a la mauvaise habitude de toucher le fille de la première, deuxième, secondaire, s'il vous plaît, le sein. Vous comprenez? Et c'est une situation qui est connue, c'est une situation qui est connue par les autorités de cet établissement scolaire. Et parce que les enfants ont peur d'échouer et ne veulent pas dire cette situation à leurs parents. Parce que même si tu disais ça, le professeur, donc le promoteur connaît l'affaire, tout ça, et il ne réagit pas.
Donc il faut une spécialisation des autorités scolaires. On va terminer avec vous, Rosie.
Par rapport à ça, je dirais que c'est vrai, ça existe. Vous savez, là, moi je me dis... Qu'est-ce qui pousse les professeurs à faire ça?
Quand tu dis ça existe, c'est donc toi qui as été victime?
Je peux dire ça comme ça, parce que j'ai aussi vu des amis comme ça. Vous savez, moi par exemple, ça c'est une question de téléphone, c'est tout ça. Le professeur qui vient, non, les élèves, les amis, tenez mon numéro de téléphone, et vous, vous n'avez peut-être rien, vous prenez le téléphone et vous essayez de l'appeler, et vous voyez qu'au fur et à mesure que vous continuez de parler avec la personne, la causerie change.
Mais vous l'avez pour quel motif?
Voilà, alors vous êtes tous les jours avec lui à l'école.
Non, en vacances, c'est fini. Vous aimez vraiment votre professeur. Il y a des élèves comme ça, il y a des professeurs qui nous ont marqués. C'est pas interdit de communiquer avec nos professeurs. Vous essayez de faire ça et vous voyez que la communication change. C'est automatiquement une bonne élève, une bonne fille doit arrêter. C'est ça.
Alors là, on retourne du côté de Monsieur Arthur CDA, Gamo, vice-ministre de la PSP. Comment réagissez-vous par rapport à ce genre de pratiques qui sont observées dans nos écoles?
Oui, c'est vraiment avec beaucoup de regret que cette pratique existe dans notre système. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure là, quand il n'y a pas d'initiation, nous ne pouvons pas agir. Et tout à l'heure, je vais vous donner l'exemple d'une fille de Kitambo, je me réserve de citer le nom, ainsi que l'école, qui a été victime d'un harcèlement sexuel de la part d'un de ses enseignants. Elle a informé ses parents, et les parents sont organisés. Au moment où je vous parle aujourd'hui, l'enseignant est devant la justice. C'est-à-dire, si la fille, l'élève n'avait pas eu le courage de dénoncer ça, on ne saura pas. Oui, mais moi, j'insiste pour dire que nos enfants doivent aussi nous aider et ils doivent s'assurer qu'ils ont notre protection. On ne peut pas aujourd'hui livrer un élève qui a eu la bonne volonté de pouvoir nous informer objectivement sur tel ou tel cas qui se produit dans un tel coin.
Oui, mais monsieur le ministre, vous avez suivi tout à l'heure le point de vue des enfants. Oui. La plupart des enfants ont peur. Pourquoi à votre niveau, non, vous ne pouvez pas vous organiser? Il y a moins de vous organiser, monsieur le ministre. Pourquoi ne pas envoyer peut-être, je ne sais pas, un groupe de gens qui viendront enquêter dans l'école?
Une commission disciplinaire.
Il y a moyen de le faire.
Écoutez, madame. Madame.
Oui.
Moi, je pense que parmi les moyens que nous devons utiliser, c'est la collaboration entre tous. C'est-à-dire les parents, les élèves et nous. Chacun de nous doit être à mesure de dénoncer le méfait dont il est témoin. À notre niveau, nous allons faire notre travail. Et nous le faisons d'ailleurs parce qu'il y a des comités, chaque préfet, chaque établissement est structuré pour pouvoir tout vérifier, pour vérifier le bon fonctionnement des établissements. Mais à côté, si les élèves nous aident, si les parents nous aident, nous serons encore beaucoup plus efficaces dans la protection de nos enfants. Je suis moi-même parent et je suis conscient de ce que je vous dis là.
Bien, on a l'impression que les enfants ne sont pas totalement d'accord. On aimerait encore une fois leur donner la parole.
Ils ont raison parce qu'aujourd'hui, dénoncer son professeur, ça relève d'un grand courage. Mais je demande aux enfants d'être courageux.
Donc,
nous avons de notre ressource et nous prendrons soin de mettre des gens compétents pour pouvoir vérifier le fait.
Tout à fait. Nous avons quelques-uns qui aimeraient vous faire quelques propositions, hein, je crois. On va commencer par vous.
Monsieur le ministre, moi je voudrais ceci. Vous savez que c'est difficile d'abord de vous atteindre. On ne refuse pas par le numéro de téléphone, mais s'il vous plaît, laissez-moi terminer, je vous en prie.
Moi, nous laissons nos numéros à vos élèves.
Ok.
Et la fin de l'émission, vous voulez mon numéro, je vais encore vous donner.
Nous, on aura le numéro, mais les autres, peut-être que ce ne sera pas vraiment élargi comme ça. Moi, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est quoi? C'est bien bon de mettre des gens, mais essayez un peu d'élargir votre champ d'action, vous voyez?
Oui.
Essayez un peu d'accorder plus d'opportunités à l'enfant, de donner ce goût-là à l'enfant de pouvoir dénoncer. C'est-à-dire quoi? Par exemple, dans des écoles, ce n'est pas qu'on a peur d'abord pour les enseignants et on a peur aussi pour l'argent, vous voyez. Essayez un peu de rendre ce système-là au niveau le plus bas, permettez-moi de dire ça comme ça, mais je pense que c'est ce qu'il devrait faire.
Voilà, et c'est l'ensemble, monsieur le ministre, nous pensons que toutes les propositions des élèves, et ceux-là qui nous suivent, hein, ils n'ont pas eu le temps de venir sur les ondes de Radio Capi en direct le faire. Nous allons vous transmettre toutes ces propositions, questions, de voir comment vous allez mener vos actions afin de réhabiliter ou de redorer quand même l'image de notre enseignement qui est vraiment terni. Excellence, monsieur le ministre, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Pour que ce soit, s'il vous plaît.
Allez-y.
J'aimerais quand même dire à nos enfants, c'est-à-dire la reconstruction de notre pays, c'est l'affaire de nous tous. Et ces mots qu'ils sont en train de vivre là, ce sont les mots que nous aurons du jour au jour et nous avons besoin de leur participation pour lutter contre tous ces mots-là. Je suis d'avis avec eux, nous devons protéger nos enfants qui sont l'avenir du demain du pays. Alors, il faudra aussi de leur côté qu'ils soient responsables par rapport au rôle qu'ils doivent jouer. Dénoncer et nous serons appelés protégés. À notre niveau aussi, on s'organise avec les comités scolaires pour sécuriser davantage nos enfants.
Arthur CD Angamo, nous rappelons à nouveau que vous êtes vice-ministre de l'EPSP. Vous intervenez sur les ondes de Radio Capi. Merci et à la prochaine.
Merci.
Alors, nous nous tournons du côté de Pala. Donc, nous avons un autre invité, Joseph Godet-Kayembe, président de la Lisadel, parce qu'aujourd'hui, il faut dénoncer. Les enfants seuls ne peuvent pas les faire. Godet-Kayembe, vous défendez les droits de l'enfant. Vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, mon ami.
Alors, vous avez suivi monsieur le ministre, monsieur le vice-ministre, qui demande à ce que les enfants aient ce courage de pouvoir dénoncer tous ces mots qu'on observe dans leurs écoles. Est-ce que l'Isadel est prêt à pouvoir accompagner les élèves dans cette démarche?
Oui, merci beaucoup pour la parole. Et l'honneur que vous avez fait d'intervenir dans cette émission. D'abord, je ne pense que les enfants congolais, les enfants africains. Cette journée, c'est leur jour. Et je voudrais d'abord féliciter les enfants qui ont pris la responsabilité d'énoncer à haute voix toutes ces choses qu'ils ont dites. Et je voudrais en même temps aussi féliciter le ministre, le vice-ministre. Mais toutefois, je voudrais d'abord commencer par répondre au ministre lorsqu'il dit aux enfants de dénoncer. Et les enfants qui connaissent la réalité savent qu'il y a la complicité entre le chef de guide, le chef de l'école qui fait la même chose que les enseignants. Et il est difficile pour que cet enseignant puisse, le directeur puisse prendre des mesures concrètes vis-à-vis de l'enseignant qui est dans le même pratique que l'enseignant. Alors, les enfants ont raison d'éviter parce qu'ils savent qu'il y a, une solidarité des enseignants qui risque que cet enfant, même si on peut chasser l'enseignant, que ces enfants puissent avoir des problèmes. Et je voudrais signaler au ministre que par rapport aux violences sexuelles qui sont faites aux enfants, l'Isadel a mené une enquête avec l'UNICEF l'année dernière dans les écoles ciblées de l'UNICEF dans la ville de Kinshasa. Et nous sommes rendus compte que dans à l'école primaire, les enfants de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans sont couchés par les enseignants. Donc quand vous avez votre enfant à l'école, considérez que c'est l'enfant des enseignants. Donc ces choses ont été dénoncées et nous avons pris l'initiative de faire, de mettre en place un programme de lutte contre les violences faites aux enfants dans les écoles. On a dû avoir à Kinshasa 4 bureaux pour faire le monitoring, pour faire l'écoute attentive des enfants et afin de faire les enfants. Parce que nous savons que s'il y a des psychologues qui suivent tous ces enfants, qui discutent avec les enfants, on peut avoir des informations, on cache le nom de l'enfant et on met des actions pour protéger l'enfant. Mais nous avons écrit au ministère et ça fait une année.
On a
Je voudrais d'abord faire la distinction. Il y a le cas des violences sexuelles qui sont faites aux femmes, aux enfants, qui appartiennent pas au système éducatif. Il y a des violences qui sont faites aux enfants, par exemple le cas d'une fille de Genève qui a été violée par récréation par son enseignant. Et nous avons un certain nombre de cas qui sont en justice. Et que nous avons accompagné les enfants provenant du système éducatif de l'éducation. Pour la plupart des cas qui viennent du système éducatif, nous avons obtenu des résultats. Et parce que les gens sont arrêtés, sont en prison, ils sont condamnés. Et nous avons pas eu l'appui du ministère par rapport à ça.
S'il vous plaît.
Particulièrement, quand nous faisons cette action, nous sollicitons que l'appui du ministère pour que le magistrat puisse se prononcer.
S'il vous plaît. Vous avez dit qu'il y a certains enseignants qui ont été arrêtés, mais est-ce qu'on peut avoir un nombre précis? Combien d'enseignants ont été arrêtés?
Par rapport aux statistiques, nous avions une affaire de 7 enseignants, y compris le préfet, qui était arrêté. Et il y a eu 2 enseignants, plutôt un préfet qui a eu la liberté provisoire, et il y a eu 6 enseignants qui sont en prison actuellement. Et on est passé sur la procédure, ça peut prendre 6 mois. Après, ça devait prendre 3 mois, mais comme nous sommes dans une république où on ne respecte pas les dispositions légales qui prévoient que l'auteur soit sanctionné en ayant 3 mois, mais ici, on va jusqu'à une année, mais nous ne faisons pas de faire plaidoyer pour que l'État puisse encore sanctionner les magistrats et les juges qui refusent d'appliquer des dispositions légales qui prévoient que en cas de violence sexuelle, que la personne soit condamnée en délai de 3 mois.
Oui, mais il y a quand même une précision qu'on aimerait apporter, parce que c'est vrai, vous avez dit, vous avez eu affaire avec les doyers au niveau du ministère, de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel,
oui.
Nous savons qu'il y a d'autres moyens de pression.
Oui.
Et la Isabelle, elle attend tranquillement que le ministre réponde sans pour autant agir autrement.
Non, nous allons au niveau de la justice. Nous menons nos actions. Nous écrivons au ministre de la justice. Nous écrivons au procureur général de la République. Nous écrivons pas qu'en fait, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que pour la plupart des cas de violences sexuelles, le magistrat sont corrompus. Et généralement, on donne l'argent au magistrat, il donne la liberté provisoire, tout en sachant que la personne à qui donne la liberté, il n'a pas la possibilité de contrôler son mouvement, et la personne disparaît. Et la plupart des dossiers, vous avez eu beaucoup de dossiers, plus de 300, 400 dossiers, qui sont, vont pas les violeurs. Et les violeurs sont libérés, malgré la sanction. Et pourtant, la loi condamne toutes tentations par rapport à ces infractions.
Et nous répondons.
À l'heure de ça, nous faisons toutes ces pressions-là pour que l'État, en fait, les autorités judiciaires puissent sanctionner le magistrat qui accepte la corruption, libérer les auteurs. Et en même temps aussi, nous voulons obtenir que, toutefois qu'il y a le dossier qui concerne les enfants à l'école, que le ministère particulièrement s'implique pour que la plus politique puisse pouvoir...
C'est une bonne proposition, M. Joseph. Alors, M. Joseph Godet-Kayembe, vous avez fait là une bonne proposition. Nous allons transmettre à qui des droits, c'est-à-dire au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Dommage que le ministre ne soit déjà parti. Sinon, je crois que, comme l'ont fait d'autres auditeurs, nous en voulons...
Je voudrais compléter quelque chose, s'il vous plaît.
Oui, allez-y.
Vous avez suivi, tout le monde se plaint. Je vois que le ministre, lorsqu'il répond, il dit que il faut quelque chose pour le système éducatif. Il se donne des ministères d'école. Mais je vous dis avec toute sincérité que notre pays, ici, jusqu'en 1984, le système éducatif fonctionnait correctement. Et tous les enfants étaient scolarisés. C'était le meilleur système éducatif presque africain. Mais pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui? Parce que c'est la question qu'on doit se poser souvent. Les gens ont l'impression que nous devons venir du néant. Le système éducatif congolais fonctionnait correctement. C'est pas 84. Lorsqu'ils sont entrés en programme avec les banques modernes FMI, qui ont supprimé tous les avantages du système éducatif, que nous sommes tombés là où nous sommes. Mais toutefois, j'ai toujours prévu à ce que le budget alloué à l'éducation soit conséquent. Partout à travers le monde, il n'y a aucun pays du monde qui affecte à l'éducation le budget qu'on affecte à l'éducation au Congo. Au Rwanda, le budget est de 50%, en Tanzanie, le budget est de 40%, et bien qu'au Congo, on fait l'éducation, 5%, on dit qu'on a fait l'effort. Et c'est
déjà, de toutes les façons, le sujet n'est pas à l'ordre du jour, sur les budgets. On va peut-être à la rentrée, disons, à l'élaboration du budget 2009. Oui. Et donc, on va vous inviter et on verra si peut-être le législateur ou l'autorité budgétaire vous associe à ce débat. Joseph Godet-Kayembe, nous rappelons que vous êtes président de la LISADEL. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci.
Alors nous revenons dans cette studio pour clore cet entretien avec nos invités, Tracy, Béo et Rosie, des enfants. Là, je signale que vous êtes membre d'Educon, hein?
Oui.
Vous êtes arrivé par les vos écoles, mais comme membre d'Educon. Educon, c'est quoi, Rosie?
Educon, c'est une ONG qui signifie, c'est une abréviation, éducateur, consultant. C'est une ONG qui met en œuvre, qui a souvent pour vision d'aider les enfants, avec comme devise, n'attendons pas que les enfants soient dans la rue pour les aider, mais dans Educon, nous sommes précisément dans le groupe qu'on appelle Excellence Enfant, puisque l'ONG c'est Educon, mais parmi les projets d'Educon, nous avons Excellence Enfant, le groupe auquel nous appartenons.
Vous n'êtes pas accéléré là-bas, hein, dans Educon.
Là, on nous donne l'opportunité de nous exprimer. Quand nous voyons que quelque chose ne va pas bien, on parle. Quand ça ne va pas, c'est nous, ça, oui.
Et vous êtes de cet avis?
Oui, je partage totalement cet avis, parce qu'avec nos éducateurs, c'est pas seulement comme étant comme ça, mais c'est un dialogue entre enfants et parents, et on nous laisse quand même l'opportunité de nous exprimer librement.
Alors, qu'est-ce que du coup, vous a apporté Déo, personnellement?
Personnellement, du coup, a beaucoup apporté. Moi, parce que pour un moment, moi, Déo, j'étais un garçon timide. Vous comprenez? Quand je suis arrivé à Educon, non. Donc, il y a tout qui a changé en moi. Il y a même la famille qui s'est étonnée. Est-ce que Déogresse est ou pas? Parce que Déogresse, maintenant, s'exprime bien. Il a quelque chose à dire. Il exprime devant le public tout.
Aujourd'hui, vous savez que la journée consacrée à l'enfant africain, c'est en fait donner la parole aux enfants, les enfants.
Les enfants vus et entendus.
Et on aimerait comprendre une chose, hein, Géographia, parce que, bon, vous dites, aujourd'hui, vous avez pu vous exprimer librement grâce à cette ONG. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils vous ont donné exactement pour que vous arriviez à vous exprimer librement?
Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? La matière, c'est, premièrement, pour moi, selon moi, j'avais suivi une des émissions à la télé et qui m'a attiré. Il y avait des enfants qui parlaient et tout ça. Et ça m'a attiré. Et quand je suis parti faire les tests, on a fait les tests, j'avais réussi. Et il y a une séance de formation. On vous forme d'abord avant d'être excellence, qui prend 15 jours. Donc par jour, on prend 2 heures jusqu'à 15 jours. Et vous terminez cette séance, oui, comme à l'école. Mais c'est un peu différent avec l'école.
D'accord. Oui, c'est la différence.
La différence, c'est que là-bas, il y a une certaine série de questions qu'on nous donne, qu'ils ne savaient même pas à l'école, qu'on ne s'est pas appris à l'école, une certaine série de questions qu'on donne, on apprend. On apprend aux enfants d'observer, on développe aux enfants des capacités intellectuelles. Il y a l'observation, tout ça, il y a plein de choses.
Alors j'imagine que certainement que vous aurez aimé qu'il y ait ce type d'enseignement dans vos écoles.
Oui. Voilà, si nous avons encore la chance de vous retenir sur les SIDA, parce qu'aujourd'hui c'est la journée de l'enfant, hein. Est-ce que l'école, on pourrait peut-être revenir très prochainement avec nos invités.
Mais retenons qu'il y a eu beaucoup de réactions. Hier, on n'a pas peut-être eu le temps de lire les réactions des auditeurs, mais beaucoup aimeraient entrer en contact avec vous. Et du coup, qu'est-ce qu'ils devraient faire, tous ces enfants qui vous ont suivi aujourd'hui à travers la RDC?
Donc concrètement,
pour être membre par exemple,
concrètement, vous pouvez nous joindre, appeler nos éducateurs. Je peux donner le numéro si ça ne dérange pas. Les 081 512 1070. Je reprends les 081 512 1070 ou encore au 081 525 1348.
Voilà, on vous retient encore un petit moment parce que c'est la journée internationale de la